Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée sous la neige. On lâche pas, le printemps s'en vient, les amis, les températures un peu plus clémentes. C'est assez mouillasseux aussi comme température, on va se le dire. Ce soir, la température, ça va être exactement ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est-à-dire un peu de neige mélangée peut-être un peu avec de la pluie. Et cette nuit, ben, on parle de bruine et de pluie verglaçante. Donc, c'est ça le cocktail météo qu'on aura pour les prochaines heures. Donc, en souhaitant que, encore une fois, que vous avez passé une belle journée, on va certainement passer une belle soirée ensemble, puisque je la débute avec un gars que je trouve franchement inspirant. Je fais un jeu de mots. Bon, vous savez pas qui j'ai ce soir, moi je vais vous le dire. C'est un gars que j'ai découvert par hasard. J'ai lu un article, je me souviens pas, je crois que c'était dans la presse ou quelque chose du genre, et ça disait qu'il y avait un gars qui faisait des podcasts, un inconnu qui faisait des podcasts, qui avait réussi à détrôner le roi du podcast à ce moment-là, qui était Mike Ward, l'humoriste Mike Ward, qui a son podcast aussi depuis déjà quelques années, dont je suis auditeur. Là, je me dis, quoi, il y a un gars qui a réussi à détrôner Mike Ward au Québec. Je ne pensais pas que c'était possible. Et là, ce soir, il est avec moi. Son nom, c'est Charles Côté de Drôlement Inspirant. Salut, Charles.
Hey, salut. Merci de m'accueillir. C'est gentil.
Bien, merci d'être avec nous ce soir. Je sais que tu as un horaire très, très chargé. Je pense que ça fait des mois et des mois que je veux t'avoir en podcast. Puis là, ben, tu t'es rendu disponible pour nous autres. Tu fais-tu faire ton tour régulièrement à Québec, Charles?
Oui, on a beaucoup de clients à Québec. Là, donc, dernièrement, j'ai passé là, parce que j'avais un événement justement avec des clients qu'on recevait là, au centre des congrès. Donc, on a souvent affaire à Québec. On a bien du monde là qu'on aime et j'adore être de passage. Là, j'aurais aimé ça venir te voir en vrai te serrer la main, mais l'horaire du travail faisait en sorte qu'on ait mieux de faire ça à distance là, pour aujourd'hui. Mais je suis toujours content que je viens à Québec.
Ouais. Pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de Drôlement Inspirant, on va définir ce que c'est que Drôlement Inspirant. Mais juste avant, j'aimerais en connaître un peu plus sur ton parcours pour mettre la table, bien entendu, pour les auditeurs. T'sais, qui est Charles Côté? Comment aujourd'hui on entend parler de ce gars-là régulièrement? C'est tout ça que tu voulais faire dans la vie ou, je sais pas, moi, c'est un peu hasard, ton entreprise que tu as partie puis qui fonctionne très bien. On va commencer par les tout débuts. C'est qui Charles Côté?
Ben en fait, de où ça a parti, c'est super simple, c'est que moi, à un jeune âge, l'âge primaire ou école secondaire, je manquais énormément de confiance en moi, puis par pur hasard, j'ai tombé sur des documentaires à la télé de gens riches et célèbres, tu sais, le fameux cliché de « ils ont une grosse maison, les gros chars », tu sais, le cliché du succès, tu sais, ce qu'au Québec, les gens aiment pas voir, tu sais, le succès financier, la grosse affaire, puis moi, ça m'a allumé parce que c'est pas ce que j'ai expérimenté comme vie. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, des bons parents, mais on était pas riches. Et ça m'a amené à faire des recherches, à rechercher. Moi, ça se fait qu'il y a des gens qui vivent des vies plus extraordinaires que d'autres. C'est juste la chance, la malchance. Il y en a qui ont eu des mauvais coups. J'ai du monde que je rencontre qui me disent « Ouais, mais moi, à cause du crash qu'il y a eu en telle année, ça n'a pas fonctionné mes affaires. » Puis l'autre, il me dit « Grâce au crash, mes affaires ont fonctionné. » Je dis « Pour le même événement, il arrive deux résultats différents. C'est quoi qui se passe? »
Ça me fait penser, vas-y. Charles, à quand on était jeune, puis il y a des gens qui nous disaient, des gens plus vieux disaient « Ben moi, j'ai pas fait la Ligue nationale parce que j'étais trop petit.
» Ben, c'est ça, où je me suis blessé.
Je me suis blessé un genou.
C'est ça, fait que je me suis bien étudié un peu tout ça, puis là, j'ai tombé dans plein d'affaires au niveau de la croissance personnelle, le développement personnel, puis ça m'a vraiment frappé parce que, vu que j'étais jeune, c'est vers l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à m'intéresser à cet univers-là, ben tu sais, j'étais naïf. J'étais naïf, moi, j'avais pas encore le cerveau formé à 100%, j'avais pas encore trop d'expérience de vie qui fait en sorte que je veux pas croire à des choses qui pourraient peut-être changer mes perceptions puis la manière que je mène ma vie depuis 30, 40, 50 ans. Donc, je me suis mis à appliquer certaines stratégies, certaines méthodes, puis ça a fait en sorte qu'à l'âge de 17 ans, j'ai parti ma première entreprise, des machines distributrices. Ça a pas fait en sorte que c'est un succès, ça a été un échec. Mais au moins, c'est que je me suis lancé. Donc, j'ai appris de tout ça. Après ça, j'ai travaillé dans le domaine automobile. Puis, je suis devenu le plus jeune directeur des ventes du domaine automobile au Québec. Donc, ouais. À l'âge de 20 ans, j'étais directeur d'un concessionnaire. Ça s'est terminé également en échec. Okay. Donc, j'ai perdu mon emploi.
Puis, de mémoire, pour ce qui est de ta première entreprise avec des machines distributrices, ouais. Tu avais 17 ans, puis tes machines distributrices étaient dans des bars. Donc, tu pouvais pas rentrer dans les bars pour avoir accès à tes machines. Fait que déjà là, tu faisais face à une certaine adversité. Tu devais trouver des stratégies pour rentrer dans le bar puis avoir accès à ta fameuse machine que tu voulais remplir. Là.
Exact, ça paraît que tu écoutes mes podcasts. Donc, effectivement, c'est ça l'histoire. Donc, ouais, ben, je ne savais pas, moi, je n'avais pas pensé à ça. Je me suis dit, ben là, je vais partir d'un business, puis c'est des machines distributrices. Fait que je vais faire de l'argent avec ça va être facile. Non seulement, je faisais pas une maudite scène parce que le mec qui m'avait vendu ça m'avait fourré en bon québécois. Et les bars, ben, évidemment, quand tu arrives, là, puis ta petite calotte, puis le char tout rouillé, puis ils te voient que tu n'as pas l'air d'avoir 18 ans, mettons, ben, ils te demandent tes cartes. Puis là, ben, il fallait que je négocie avec le doorman dans l'entrée pour expliquer que je m'en allais pas prendre une grosse labatte 50. Je m'en allais chercher mon argent dans mes machines. Puis c'était un beau mot de dire mon argent parce que c'était plus une petite poignée de change.
Ouais.
Donc, ouais.
Est-ce que c'était la première fois que tu faisais face à l'adversité, puis est-ce que ça a déterminé qui t'allais être un peu plus tard, tu sais, première entreprise, tu t'es rendu compte qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé un peu à tes dépens parce que tu avais un très jeune âge, mais tu voulais réussir, donc il t'a vendu une entreprise qui était un peu boboche, puis qui savait en plus au départ que tu allais avoir des problèmes à rentrer dans les bars alors que tu n'avais pas l'âge. Tu sais, ça a déterminé, veux pas, quand tu as continué, je veux dire, ça a déterminé un peu le gars que tu es aujourd'hui, c'est que tu n'abandonnes pas.
Ben définitivement que ça l'a déterminé en fait qui je suis aujourd'hui, mais c'est pas juste cet événement-là, tu sais, c'est le cumul de tellement d'événements. Puis plus jeune, ben moi, étant donné que je manquais de confiance en moi, que j'étais pas bon à l'école, j'ai fait déjà des déceptions depuis tout jeune. Fait que, tu sais, moi, j'ai plus vécu dans ma vie de déception que de moments glorieux, ce que je me dis, wow, tu sais, c'était pas si longtemps que ça là, que je vois que j'ai des résultats, que j'ai du succès, puis ce que je fais fonctionne. Tu sais, tout ce qu'on bâtit dans la vie, ça prend du temps. Puis c'est là qu'après ça, tu bâtis une fierté quand tu regardes tout ce que tu as fait. Mais la vérité, c'est que j'ai eu plus de moments que c'était moins le fun que de moments que c'était le fun. Là. Ça, c'est la vraie vérité que bien des coachs raconteront pas, là.
Avec du recul, est-ce que tu sais pourquoi que tu avais de la difficulté à l'école? Parce qu'il y a des parents qui nous écoutent, qui ont de jeunes enfants, qui n'ont aucun intérêt pour l'école. Puis, tu sais, moi, je fais partie de ceux-là. Je pense que pour l'instant, je fais partie des chanceux parce que mes gars réussissent bien à l'école, même si c'est pas des gros, gros travaillants, là. Des fois, quand je m'assois avec eux pour faire les devoirs et les leçons, tu sais, avant même que j'ouvre le livre, là, j'entends des gros soupirs et tout ça. Tu sais, d'entendre que toi, qui semble bien avoir réussi aujourd'hui, tu avais des difficultés à l'école, tu sais, pourquoi tu avais des difficultés à l'école? C'était-tu un manque d'intérêt? C'était-tu parce que les professeurs que toi, tu as rencontrés durant ton parcours, c'était pas des professeurs qui étaient passionnés, qui étaient dédiés à l'élève, mais c'était plutôt des professeurs qui étaient en fin de carrière, qui, tu sais, pour faire l'image, ils mettaient des X sur leur calendrier avant que la retraite arrive, là.
Mais toutes ces réponses-là,
Ouais.
j'étais vraiment désintéressé. Puis moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que on m'a jamais vraiment expliqué pourquoi je devais apprendre certaines choses. T'sais. Donc, quand tu es jeune, aujourd'hui, je le comprends que bon, faut que tu saches comment calculer, faut que tu saches écrire, puis toutes ces choses-là, je le comprends. Puis jamais je vais prôner que l'école, c'est pas important, c'est pas ça le sujet. Le point, c'est que je voyais pas à quel point tout ce qu'on mentionnait allait vraiment me servir. Donc, j'avais un désintérêt total envers la matière, plus des enseignants justement qui vont faire un petit X sur le calendrier parce qu'il faut qu'ils punchent le chiffre, sont en fin de carrière, ça le tente pas, plus le fait que j'ai un petit trouble d'attention ou ce que ben je perds le fil assez rapidement, plus le fait que vu que je manque de confiance en moi, ben dès que j'ai quelque chose devant moi qui paraît difficile, mais ben, je me force pas. Puis si je me force pas, ben j'ai un mauvais résultat. Puis le mauvais résultat vient confirmer ma croyance que je suis pas bon. Fait que tout ce mélange-là ensemble fait que je suis pas une victime, là. Mais ça fait en sorte que ça ne m'a pas aidé. Puis, moi, mes parents, ils auraient tellement aimé ça que j'aille dans une école privée, puis je fasse des grandes études, puis tout ça. Puis, l'examen pour aller à l'école privée, je l'ai poché. Ils m'ont fait étudier tout l'été. Le soir, je ne peux pas aller voir mes amis faire du vélo, aller au parc, là, comme les autres jeunes. Il fallait que j'étudie à la table de la cuisine pour faire le foutu examen pour aller à l'école privée, puis je l'ai coulé l'examen. J'ai été dans une école publique, puis cette année-là, la première année de secondaire, je l'ai coulé aussi. Donc, j'étais vraiment pas fait. Pour être bon là-dedans, et je comprends que je suis une exception aujourd'hui de souvent le cliché de la personne qui va bonne à l'école puis qui lâche puis qui finit pas sur son secondaire 5, c'est ben tu n'arraches un peu dans la vie, mais grâce à la croissance personnelle, pour moi, ça m'a aidé à faire totalement autre chose. Puis si j'avais connu la croissance personnelle plus jeune ou mes parents m'avaient enseigné certaines notions, ben peut-être que j'aurais persévéré plus à l'école. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ben, avec l'information qui est disponible pour tout le monde, ben ça peut aider des jeunes. Puis je le fais par des conférences dans des écoles où ce que même si je suis un décrocheur scolaire, il y a plein de jeunes qui m'écrivent pour me dire, Charles, tu me motives à rester à l'école.
Non, mais avec du recul, moi j'entends ton discours, puis je trouve ça intéressant d'expliquer aux enfants pourquoi ils vont apprendre telle ou telle affaire à l'école. On n'est pas parfait comme parents, là. Moi, le premier avec mes gars, des fois, je me pose régulièrement des questions à savoir, bon, sais, je serai jamais le père idéal, je serai jamais le père non plus qui va être extrêmement cruel. J'essaie d'être le meilleur possible, mais je suis pas parfait. Mais d'expliquer à nos enfants pourquoi ils font quelque chose à l'école, tu sais, il me semble que ça devrait être la base aujourd'hui. Puis moi, je leur donne une motivation, ce qui fait en sorte qu'ils comprennent un peu plus pourquoi je veux qu'ils continuent l'école puis qu'ils continuent d'étudier. Tu sais, j'en ai un qui va être policier, l'autre qui va être voleur. Fait que, bon, tu comprends que je vais peut-être réussir une fois sur deux, mais...
ils vont bien s'entendre, en tout cas, ils vont rester en lien pendant longtemps. Ouais. Ils vont se promener dans le même char, mais c'est pas le même qui va conduire le char.
C'est le plus petit qui veut tout le temps être à l'extrême de son frère, mais celui qui veut être policier, rendu à 10 ans. Puis je lui explique, ben je dis, tu sais, Josh, pour être accepté à l'école de police, faut que tu aies des bonnes notes. Parce que sans quoi, tu seras pas accepté à l'école de police. Donc la raison pour laquelle que tu dois étudier puis que tu dois performer à l'école, c'est que si tu veux être policier, c'est un passage obligé vers. Mais moi, avec le recul que t'as, c'est d'expliquer, exemple, l'algèbre, tu sais. L'algèbre, pourquoi t'apprends ça à l'école? Moi, je l'ai plus jamais réutilisé, l'algèbre, là. Tu sais, tu vas dire, ben, c'est sûr, animateur de radio, mais tu sais, j'ai eu d'autres carrières aussi au travers de ça. Je l'ai jamais réutilisé. Mais au début, moi, l'algèbre, c'était ce qui me faisait plus peur. Puis j'étais chanceux parce que je réussissais bien à l'école, ce qui faisait en sorte que quand on m'a intégré les notions d'algèbre, j'étais capable de faire mes démarches qui ont fait en sorte que j'ai passé mes examens de maths. Mais quelqu'un qui veut rien savoir de l'algèbre, qui comprend pas A, B, toutes ces affaires-là, mais puis tu expliques pas pourquoi il doit passer par là. Ça doit être dur, ça doit être incompréhensible pour un enfant de 12, 13, 14 ans de faire des affaires qu'il sait pertinemment qu'il réutilisera jamais le restant de sa vie, mais il faut qu'il fasse pareil. Tu sais, t'as pas de motivation à ce moment-là, là.
T'en as pas du tout, puis ce qui est dommage, et même quand je m'exprime sur le système d'éducation, puis l'école et tout ça, je reçois énormément de commentaires de gens qui sont en désaccord, parce que pour eux, c'est comme, non, c'est parce que c'est de même, puis dès que tu confrontes un peu, ouais, mais à quoi ça va me servir? L'humain veut se sentir utile. Si je te dis, demain matin, là, il y a pas personne qui écoute ton show de radio, ce que tu fais en ce moment, ce qu'on fait les deux en ce moment, sert absolument à rien. On n'a aucune valeur qu'on ajoute. Donc, moi, mes enfants sont plus jeunes que les tiens. Puis si je leur demande de ranger les jouets, ça ne leur tente pas pantoute de ranger les jouets. Mais si j'explique que, ah, mais c'est parce que la maison va être propre, bah, pas nécessaire. Ça va peut-être leur tenter un peu plus. Mais si je leur explique, hey, on a une mission, là, puis je te rends ça le fun, le fait de ranger la maison, là, ben là, ils ont beaucoup plus de chances de le faire parce qu'on le fait parce que, hey, y a du plaisir à travers ça. Ouais. Il y a une mission en arrière, puis il y a une raison en plus. N'importe qui, n'importe. Aujourd'hui, j'ai une quinzaine d'employés. Si je leur dis, hey, on va faire telle affaire, faut que je leur dise la raison puis le résultat espéré à la fin puis qu'est-ce que ça va donner de faire ça. Je vais dire, ben c'est le même parce que c'est moi le boss. Puis moi, je suis le boss, puis faut que tu fasses ça parce qu'à la fin, ça donne tel résultat. On va me dire que je suis quelqu'un qui n'est pas correct avec ses employés. Mais le système qui me dit faut t'apprendre ça parce qu'il faut t'apprendre ça, ça, c'est correct. Ça passe. Ça, là, il n'y a pas de problème. On ne s'obstine pas la personne là-dessus. Mais à l'inverse, un patron qui dit à ses employés, fais ça parce que c'est le même. Un parent qui dit à ses enfants, fais ça parce que je suis le parent, c'est moi qui décide. On dirait que c'est un petit manque de leadership. Fait que dans le système, il y a un grand manque de leadership où ce qu'on nous explique pas à quoi ça va servir, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis souvent, on est un peu dans le déni de genre, ouais, non, mais on sait bien là, que ça nous servira pas toutes ces affaires-là plus tard, mais faut le faire quand même. Fait que j'ai pas de trouble parce que on laisse tout comme c'est là. Sauf que explique-moi en quoi ça va me servir. Puis après ça, peut-être de réussir à avoir une façon d'enseigner qui amène beaucoup plus de motivation à vouloir apprendre. Parce que ça prend un désir de vouloir apprendre. Aujourd'hui, moi, c'est ça qui est drôle. Je suis un enseignant aujourd'hui. J'ai des clients, j'ai des gens que j'accompagne, je fais de l'enseignement. Fait que pour amener une notion à qui que ce soit, il y a une façon de pouvoir le faire. Puis je le fais d'une bonne manière parce que sinon, je n'aurais pas des milliers de clients. Mais la manière que j'enseigne fait en sorte que les gens ils ont envie d'apprendre, ils ont du plaisir à apprendre, puis ils savent pourquoi ils viennent apprendre quelque chose.
Charles, côté de Drôlement Inspirant, bon, t'es allé, bon, t'as fait ton secondaire, ça a été assez chaotique. Par la suite, t'as dit à 17 ans, je suis un homme d'affaires. T'as commencé avec ta première business, ça a pas été ce que tu pensais que ça allait être. Par la suite, t'as travaillé dans le merveilleux monde de l'automobile. Ça a été quelque chose que t'as pas nécessairement apprécié, de ce que je comprends, là.
Non.
Comment t'en es venu à te partir en affaires, mais avec un modèle qui est basé sur toi-même?
Ouais. En fait, c'est que en même temps que je travaillais dans l'automobile, je faisais des vidéos sur le web. Ça a commencé sur Snapchat à l'époque, puis Facebook, où ce que je prenais des sujets de la vie, puis je faisais une morale drôle et inspirante. C'est de là que c'est parti, drôlement inspirant, où ce qu'au lieu de juste amener un principe par rapport à la croissance personnelle ou quelque chose d'actualité, puis c'est juste comme je suis sérieux du début à la fin ou juste complètement un show d'humour. Moi, j'aime beaucoup l'humour, mais je faisais le mélange des deux. Fait que je faisais un discours qui était drôle, qui était inspirant, puis ça commençait à faire beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Et de là, il a commencé à avoir de la demande de gens qui me demandaient ben, soit une conférence ou du coaching. Donc là, moi, ça c'est vraiment venu de là. C'est pas moi qui s'est dit, hey, je vais faire ça, puis ça va amener ça. Par contre, au fond de moi, je savais qu'un jour, j'allais me diriger vers là parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Puis même dans le domaine automobile, j'en amenais du coaching. Puis il y en avait des gens que j'accompagnais, autant d'un point de vue personnel que professionnel, mais sans avoir le format « je suis un enseignant et tu es l'étudiant ». Donc, c'était pas officiel à titre de coaching. Mais là, quand j'ai commencé à avoir de la demande, j'ai commencé à plus en plus me former à travers ça, prendre un client par-ci, par-là, tranquillement. Puis la réponse a été rapidement bonne. Donc, dans tout ce que je faisais avant, j'avais eu du succès rapidement dans certaines affaires, dont l'automobile, mais j'aimais pas ça. Puis c'était toujours laborieux. Mais dans ce domaine-là, dans le coaching, je peux dire que c'est un peu comme si tu prends un joueur de guitare qui est excellent, tu fais comme ben, il a pratiqué pendant longtemps. Ouais, mais à 5 ans, quand il s'est donné une guitare, il avait déjà un bon talent. Ou Sidney Crosby, à 4-5 ans, tu le voyais à sa patinoire, tu disais, ce gars-là, il va aller loin là, au hockey. Mais moi, en coaching, c'était un peu ça. J'ai découvert que j'avais un talent là-dedans d'enseigner, de rendre ça simple. Avant qu'on enregistre tantôt, tu me disais dans tes podcasts, Charles, quand tu parles, c'est simple. T'amènes pas. Je peux prendre des choses basées sur de la science ou basées sur de la psychologie, puis de te résumer ça de manière tellement simple que les gens font comme OK, c'est une évidence. Puis c'est de là que les gens ben, sont intéressés à faire affaire avec nous autres parce qu'ils se disent ben, ça sera pas compliqué. Ça va être simple. Je vais avoir un plan de match qui va être simple. Donc c'est un peu de là que c'est parti. Puis évidemment, avec toutes les années, ben, on amène des gens à nous aider à travers ça. Donc là, je bâtis une équipe, puis il y a plein de gens qui gravitent autour de moi pour m'aider à accompagner le plus de gens possible. Parce que autant qu'on a des gens à Québec comme Montréal, on en a aussi en Europe.
Je vais te poser des questions, puis bon, tu diras, mais où est-ce qu'il s'en va avec ça? Mais tu fais comment pour faire face à l'adversité quand tu as commencé à faire tes vidéos drôles avec certaines réflexions et en disant aux gens, ben, tu dois faire ci, tu dois faire ça, puis voici comment on pourrait voir la vie qui ferait en sorte que peut-être qu'un jour tu serais heureux. Il y a des gens qui semblent ne pas aimer ça. T'sais. C'est des gens qui sont même pas touchés par ça, qui seront jamais tes clients, mais qui se permettent constamment de juger en disant, Chris, c'est qui lui, cette prétendue? Là, tu sais, pour sortir sur Facebook ou sur Snapchat, puis me dire comment je devrais penser. Toi, face à l'adversité, face à ces mots-là qui peuvent parfois être cruels, tu sais, parce que souvent tu peux avoir 100 bons messages, mais puis t'es content des 100 messages, mais il y en a un qui vient te chercher, puis on dirait que toute ton attention est concentrée sur ce message-là en disant, voyons, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi il me traite de même? T'sais, on se connaît même pas, puis c'est hyper personnel son affaire, alors que les 99 autres messages sont super positifs. Toi, face à l'adversité, t'as dealé comment au départ? T'étais pas très vieux, là.
Non, non, j'ai commencé ça très jeune, puis la vérité, c'est qu'au début, je le disais mal, là. Je pourrais pas dire juste, oh, on s'en fout. Tu sais, c'est comme quand on parle du jugement des autres, la majorité des gens ont peur de se faire juger ou n'aiment pas de se faire juger. Puis moi, je lève la main en disant, ben, coupable, moi aussi, là, je déteste ça, me faire juger ou me faire critiquer, mais c'est inévitable que ça vienne avec. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu vas recevoir de la critique. Là, si tu te mets public, c'est-à-dire que tu mets ta face devant le monde entier, ben c'est sûr que c'est x10, x100, x1000. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est que je vais avoir l'impact qui va venir également avec, l'impact positif. Donc, au début, comment j'ai fait pour dealer avec ça, c'est d'accepter que c'est un long processus puis qu'il y a des critiques qui vont en avoir. Et si moi, au fond de moi, je sais que je fais les choses d'une manière noble, bienveillante et honnête, ben à la fin de la journée, je vais gagner. Je vais gagner parce que je sais que je suis là pour des bonnes raisons puis j'ai des bonnes intentions. Puis la personne qui n'aime pas le discours, qui n'aime pas le message, ben c'est correct. Parce que mon message, c'est pas qu'il devrait juste avoir une façon de penser. C'est pas une secte, là. Je suis pas un gourou, là. Je vends pas une nouvelle religion que c'est comme faut prôner ça et prier ça, là.
Ouais.
Moi, ce que je mets de l'avant, c'est des stratégies qui m'ont aidé moi, qui ont aidé des clients. Fait que je sais que ça peut aider d'autres personnes. Donc, si vous voulez embarquer dans la parade, let's go, mais on ne force rien, on force personne. Fait que pour moi, aujourd'hui, je vis mieux avec ça. Évidemment, c'est sûr que la critique, c'est jamais plaisant. Fait que jamais je vais avoir la prétention de dire, oh, moi, je m'en fous complètement. J'aime pas ça. Mais je dois apprendre à dealer avec. Comme il y a des gens qui travaillent en construction en ce moment, que l'hiver, au Québec, ben, ils se gèlent les doigts. Ça fait partie d'un côté négatif de leur métier. Il y a des pompiers qui doivent rentrer dans des maisons où ce que c'est en plein en feu puis ils risquent leur vie. Ça fait partie de leur métier. C'est une partie qui est moins le fun. Moi, c'est des inconnus qui m'envoient chier sur Internet. Fait que c'est ça que je dois dealer pour avoir autant d'abondance dans ma vie d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel, ce que j'accompagne, puis j'aide beaucoup de gens, puis je vois l'impact que j'ai dans la vie des gens. Les gens, à chaque fois que je les croise, puis ils me reconnaissent, viennent me voir, puis ils me saluent, puis ils me remercient pour l'impact positif que j'ai dans leur vie, ben je vais aller prendre les mauvais commentaires, là,
ça
parce que
compense.
ça fait partie du deal.
Ouais, je trouve ça intéressant. Vous avez une super vedette de la radio et de la télé à Montréal qui vient de Québec, un gars que j'aime bien, avec qui j'ai eu l'occasion de jaser souvent, puis Pierre-Yves Laure. PY, qui était d'ailleurs, tout le monde en parle dimanche pour critiquer ce que Guillaume Lemaitre-Vierge avait fait. Puis PY, je l'ai eu régulièrement en entrevue, puis c'est le gars le plus sympathique de la Terre. Puis il m'avait dit à un moment donné, tu sais, Yann, malgré toutes les années où je suis dans les médias, il a commencé à Radio de Québec, par la suite il a transféré à la télé à Montréal. Malgré toutes ces années-là, il y avait le sentiment d'être un imposteur. De ne pas nécessairement mériter tout ce qui lui arrivait. Puis, je fais quand même une couple d'années que je fais de la radio depuis 2006. Puis, je ressens toujours cette idée-là derrière moi en me disant, OK, mais pourquoi il y a des gens qui viennent me voir pour me dire, hey, salut Yann, comment ça va? J'aime ce que tu fais. Ton émission, ta ligne ouverte que tu faisais le soir, j'ai plein de beaux souvenirs. Puis, je me dis, mais je ne mérite pas cet amour-là, moi. T'sais, puis, c'est ça le sentiment d'imposteur. Toi, dans ton domaine, c'est que tu dois accompagner des gens pour essayer de leur montrer un chemin par lequel toi, t'es passé. Toutes les erreurs que t'as faites, tu leur donnes l'expérience pour ne plus que ces gens-là les fassent. Puis tu leur dis, regarde, voici l'endroit vers lequel tu dois aller si tu veux que ça aille bien. Quand on te dit, ouais, mais Charles, t'es qui, toi? Tu te poses-tu encore cette question-là après toutes les années depuis que tu fais ton métier?
Il y a différentes façons là, de framer ça. Là. Premièrement, je me pose pas la question « je suis qui, moi, pour faire ça » par rapport à quelqu'un qui voudrait valider si je suis compétent dans ce que je fais. Parce que des clients, on en a. Je ne me justifie plus sur est-ce que c'est bon ce que je fais ou pas. Par contre, d'un point de vue personnel, ce qui est difficile dans ce qu'on fait quand c'est de l'accompagnement, puis j'en ai plein de coachs qui me posent la même question que tu me poses là, c'est une journée où ce que tu vas moins bien, une journée ou une semaine ou une année où ce que tu vis des affaires difficiles, c'est sûr que ça, le sentiment d'imposteur peut être très présent parce que tu te dis, ben là, moi, je suis qui pour aider le monde quand moi, en ce moment, je ne vais pas bien.
Exact.
Donc, moi, ce que j'ai accepté dès le début, c'est que je ne suis pas parfait et je n'ai pas fait un branding alentour de moi en étant un gars parfait. Donc, les gens sur les médias sociaux, quand ils me regardent, ou quand ils écoutent mon podcast, ils voient un gars vrai, ils voient un gars authentique, puis ils voient un gars qui fait des erreurs, puis que je partage mes erreurs avec transparence. Évidemment, j'ai ma vie privée que je conserve privée pour moi, ma famille, mes enfants, puis tout ça. Mais j'ai pas peur d'afficher mon opinion, mon point de vue, des fois me mettre le pied dans la bouche, des fois me tromper. Et à long terme, ça donne une crédibilité beaucoup plus grande que la personne qui construit une identité alentour d'être parfait. C'est quelqu'un dernièrement aux États-Unis, là, c'est un gars qui prônait beaucoup la pleine conscience. C'est un ancien bouddhiste qui disait tout ça, puis il a vécu du gros des grandes controverses, parce que là, on a découvert que c'est quelqu'un de très, très connu dans la croissance personnelle, puis on a découvert que là, lui, là, finalement, il a escroqué du monde, puis c'est un fraudeur, puis c'est ça. On ne sait pas si c'est vrai, mais qu'est-ce qui l'a tué, c'est qu'à cause qu'il se mettait trop de l'avant comme étant la personne qui a la pensée parfaite,
ouais.
Dès qu'on voit une petite tâche à quelque part, là on rentre là-dedans, là, puis c'est le rabbit hole, là, puis là, c'est comme, oh, là, on va y trouver, c'est comment ça se fait que t'es pas parfait. Donc, moi, j'ai fait bien attention dès le début et encore aujourd'hui, de faire, hey, gang, je suis vraiment pas parfait. Fait que tu pourras pas essayer de piler puis mettre le doigt sur, ouais, mais lui, il donne des conseils, mais lui, par exemple, là, ce qu'il fait, c'est, non, je le sais que je suis pas parfait. Par contre, quand tu viens en coaching, c'est pas d'un point de vue de vie générale. Fait que tu sais, quand on dit les coachs de vie, je me considère pas comme un coach de vie qui coach sur tout en général. Je coach sur des stratégies précises, sur des points que je connais puis que je sais que je peux aider. Donc, il y a une grande nuance là-dedans.
Ouais.
Fait que je peux avoir besoin de m'améliorer dans plein de sphères de vie, puis c'est parfait, je travaille ça, puis c'est beaucoup plus inspirant pour les gens, parce que quand je vois mes clients en coaching, je leur partage les défis que j'expérimente en ce moment, puis les stratégies que je mets de l'avant pour les régler, bien, c'est inspirant pour eux parce qu'ils se disent, il marche le chemin avec nous. Il n'est pas parvenu, lui, là, puis il est en haut de sa montagne, en train de se dire, moi, j'ai tout vécu, j'ai tout connu, là. Il m'en reste encore un paquet d'affaires à vivre. Il y a plein d'affaires que je n'ai pas encore expérimentées, puis plusieurs de mes clients pourraient me coacher, moi, sur d'autres sphères de vie que je ne connais pas encore.
Mm-hmm.
Donc, je m'assure d'accompagner sur les sphères de vie que je connais, que je suis compétent, puis que je sais que je peux vraiment aider quelqu'un avec ça. Sinon, je ne touche pas à ça. Fait que le sentiment d'imposteur, il est beaucoup moins présent parce que tu sais que tu fais quelque chose dans quelque chose que tu connais. T'es mécanicien, on vient de voir pour réparer un char, Mais t'es pas, tu dis pas, ben, je suis qui, moi, pour réparer la voiture? T'es mécanicien, c'est ça ton métier. Mais si on te pose une question sur les véhicules de façon générale, ça se peut que tu fasses, ben, Caroline, moi, les trains, là, c'est pas mon expertise. Mais si, ton expertise, c'est les voitures. Fait qu'en croissance personnelle, ça va m'en faire. Je vais réparer des voitures, je vais pas aller m'attaquer sur les trains.
Ah, j'adore ça. On peut faire des parallèles avec le marché du travail. Toujours des gens qui vont se brander différemment. T'sais, des patrons d'entreprise qui vont se donner un air. Puis à un moment donné, tu vas découvrir que l'air qu'il se donne, c'est un air. Il n'est pas vraiment lui. Puis tu vas dire, attends un peu, là, t'sais, il me dit de faire telle affaire. Puis tu vas comme porter un peu plus attention. Parce que là, tu vas avoir un biais qui va s'installer en toi que ton boss qui se dit si parfait depuis 2 ans. Des fois, il est croche à certains endroits, puis tu vas le voir encore plus croche qu'il est parce que tu vas avoir installé ce biais-là dans ta tête. Ah, je trouve ça franchement intéressant ce que tu as dit. Puis ça me rappelle des mauvais souvenirs. À un moment donné, dans les médias, on a découvert qu'il y avait un journaliste, moi, que je respectais grandement, qui s'appelait François Bogingo. Je ne sais pas si tu te souviens de François Bogingo, il travaillait à TVA, il travaillait aussi au 98.5 à Montréal. Un gars qui avait une carrière exceptionnelle, qui était pour président de Journalistes sans frontières. Puis à chaque fois qu'il y avait des conflits dans le monde, Charles, il était là, OK? Puis là, moi, j'étais là, wow, tu sais, il est en théâtre de guerre tout le temps, il fait du journalisme, c'est le genre de choses qui m'aurait intéressé plus jeune. Puis le gars, là, je buvais ses paroles et je lisais tout ce qu'il écrivait. Puis à un moment donné, Charles, on s'est rendu compte que le gars, depuis des années, parlait de véritables conflits, mais dans lesquels il n'avait jamais été impliqué, dans lesquels il n'avait jamais écrit aucun papier, mais il disait qu'il avait été là. Puis le gars, ben malheureusement, il a perdu sa carrière, une carrière qui était exceptionnelle. Puis dans le même temps, le fameux chef Giovanni Apollo, on s'est rendu compte qu'il s'était fait un personnage, mais que finalement, il s'appelait Jean-Claude. Il n'était pas si italien que ça, Jean-Claude Apollo. Fait que non, l'importance de se montrer sur son vrai jour, puis c'est vrai que ça, c'est ta force. T'sais. Moi, dans tes premiers...
Mais c'est plus long.
Ouais.
Excuse-moi, je ne l'ai pas te coupé, mais c'est que c'est plus long.
Ouais.
Si tu te montres sur les projecteurs que tu aimerais que les gens voient de toi, tu peux grimper beaucoup plus vite dans le marché des existences, puis à la place publique, parce que justement, c'est comme... Le brandé, le gars qui a l'air italien, puis tout ça, ça va beaucoup plus vite que Jean-Claude qui fait du spaghetti, là, tu sais, ça fait pas mal plus vite. Donc, mais tu finis par t'enfarger, puis n'importe quoi que tu veux bâtir rapidement, ça se détruit aussi rapidement, puis ça, c'est pas juste pour une carrière, c'est pour tout dans notre vie, tu sais. Ouais. Ton couple, la relation avec tes enfants, tout ce que tu veux faire, ton physique. Je veux dire, moi, demain matin, moi, j'avais un gros problème de niveau de ma santé où c'est que j'étais un grand maigre. Puis là, j'ai réussi à prendre du poids dans les dernières années. Mais je me suis pas piqué avec des stéroïdes, tu comprends-tu? J'ai mangé plus et je me suis entraîné plus. Ça a pris 5 ans à prendre 20 livres là, là, de plus pour être en santé. C'est long. C'est bien plus facile de dire on va aller vers le petit shortcut. Fait, et ça, on peut faire les parallèles justement en croissance personnelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le truc rapide, la recette miracle. Et ça vient aussi également démontrer que c'est pas ça que je vais te vendre. Mais je vais pas aller sur le chemin où ce que je vais te dire on va trouver la recette facile, vite. Non, on va trouver quelque chose qui va, c'est sûr, prendre du temps, mais ça va être constant puis ça va se maintenir longtemps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir encore des gens qui viennent cogner à notre porte parce qu'ils sont en confiance de faire affaire avec nous parce qu'ils voient, c'est comme, OK, cool, il y a une crédibilité après avoir écouté 180 épisodes de podcast totalement gratuits. Ben là, je le vois, la valeur que ça a amené dans ma vie. Donc, je suis prêt à aller plus loin dans le processus. Là. Donc, c'est super important. Puis, tu dors mieux la nuit également, tu sais. Ça te permet de moins être en mode, là, il faut que je fasse attention à ce que je... Puis, on le sait, hein, tu l'as nommé tantôt, il y a des choses qui sont passées dernièrement dans les médias où que tu peux faire une joke que tu n'as pas trop, trop bien ciblé ou bien cadré ta caméra et perdre ton emploi, là.
Ouais.
Fait que c'est quelque chose, on vit dans une chasse aux sorcières en maudit présentement, puis le Québécois moyen est une victime, puis il cherche son oppresseur.
Ah, il y a une
donc, moindrement, comment tu amènes un sujet, là, tu peux te faire ramasser.
Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis il y a quelque chose de particulier aussi, ça dépend tout le temps où tu es. Hier, il y avait un humoriste qui est passé à Station. Je veux dire, c'est un gars que j'ai rencontré 2 fois à Station, un gars avec qui ça a cliqué de suite. Puis il venait juste à Station pour me dire bonjour. Puis il a attendu comme une demi-heure que mon show finisse. Puis Il se présente devant moi. Fait qu'on s'en va dans un petit local, nous, qu'on a, où on peut chiller avec les invités puis jaser. Et il me racontait l'histoire, justement, de Guillaume le Métivierge, à quel point, tu sais, du jour au lendemain, ta vie peut changer, là. Si t'écris quelque chose sur les réseaux sociaux, ça peut être dramatique pour ta carrière. Puis il y a des gens dans son entourage qui sont payés pour... Parce que lui, il fait affaire avec une genre d'agence d'humoristes. Puis l'agence paye des gens pour surveiller les humoristes pour pas qu'ils fassent de niaiseries sur les réseaux sociaux ou quand ils sont devant le public, mettons, dans des cocktails, pour pas qu'ils disent trop de niaiseries parce que ça pourrait être mal perçu. Mais il disait aussi qu'il y avait une différence entre Québec et Montréal. Montréal, c'était, il était très, très sensible sur les propos que les gens pouvaient utiliser. Puis Québec, ben, c'est un peu plus accepté de voir que l'humoriste, dans le fond, il a le droit d'avoir des défauts, il est humain, puis regarde, il fait des jokes.
C'est pour ça que moi, j'ai plus de clients à Québec qu'à Montréal. Ça vient de tout confirmé.
Mais je me dis...
C'est pour ça que je suis plus populaire à Québec.
Mais je me dis, est-ce qu'un jour, Québec va devenir comme Montréal ou Montréal va devenir comme Québec? Je sais pas, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme deux mondes. Puis ce qui arrive avec Guillaume le Métivierge, pour ne pas le nommer, c'est tragique, tu sais. Puis il était sur la corde raide avec la pandémie, avec ce qu'il avait mentionné, tout le monde en parle, puis ça avait déplu à Guillaume Lepage. Puis là, il arrive à faire une joke avec le N-word. Je veux dire, tu sais, il était pas bien encadré, là. Je veux dire, il a pas envoyé ça à une agence en disant « Hey, si je mets cette vidéo-là, ça se peut-tu que ça soit plus payant pour moi ou ça se peut que ça le soit pas pantoute? » Il l'a fait de son propre chef, puis il a perdu des milliers de dollars, puis il a perdu une partie de sa carrière, là.
Ah oui, puis également de se promener dans la rue, puis de se faire critiquer, puis de se faire regarder différemment. Moi, le parallèle que je peux faire, parce que je veux pas commenter mon opinion sur l'histoire précise, mais le parallèle que je peux faire, c'est avant de faire quoi que ce soit, parce que les gens qui vont dire « Ah, oh, ben tu sais, moi... Ça me parle plus ou moins cette histoire-là parce que je ne suis pas concerné. » Non, on est tous concernés parce que ça se peut que tu arrives le soir à la maison après une grosse journée à job, là, puis tu dises quelque chose de travers à ton conjoint, ta conjointe, puis tu aurais peut-être mieux fait de repenser à ce que tu as dit. Ça se peut que tu fasses quelque chose au travail, une erreur, tout ça, parce que tu as voulu botcher. Lui, il l'a dit dans sa vidéo d'excuse que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais je me suis dit, t'aimes en faire une. Puis moi, c'est le genre de réflexe que je peux avoir avec mon entreprise parce que je suis public sur les médias sociaux. Fait que je le prends mon téléphone pour m'amener faire, pour me compter quelque chose. Des fois, t'as pas tout le temps une idée là en tête. Fait que t'improvises quelque chose. Fait que là, tu racontes de quoi, puis ça se peut que ça passe mal dans ta barouette, puis ça m'est arrivé. Mais comme je suis moins connu que lui, puis que je ne vis pas grâce aux médias traditionnels, ben je m'en sors bien quand il y a quelque chose qui sort, peut-être que j'aurais dû y repenser une couple de fois. Mais ça, tout le monde est concerné par ça parce qu'à chaque moment de notre vie, on s'exprime parfois sur des sujets où ce qu'on n'a pas trop réfléchi, puis ça peut nous mettre dans le trouble. Moins que lui présentement, mais ça peut nous mettre dans le trouble quand même. Et l'accumulation de choses dites non, bien réfléchies, ben ça te met dans le trouble aussi à long terme.
Oui, puis les dangers, quand on a souvent des discours, tu sais, ben moi, je suis à la radio, toi, tu fais des podcasts, tu fais des conférences et tout ça, c'est que certaines personnes qui peuvent être mal intentionnées vont reprendre juste des petits segments. Ce qui fait en sorte que les gens qui écoutent le petit segment ne comprendront pas le contexte dans lequel tu as raconté cette histoire-là. Puis ça peut être extrêmement dramatique pour ton image. Là. Puis ça, c'est valable pour les présidents d'entreprise qui nous écoutent, qui peuvent dire quelque chose à voix haute à un employé quand ils viennent de sortir du bureau. Mais il n'y a personne qui sait ce qui s'est passé dans le bureau. Mais le boss continue à parler. Puis là, ben, tout le monde entend comme la fin de phrase. Puis ils considèrent ça comme du cash. Tabarouette, il me semble qu'il traite mal son employé, alors qu'à l'intérieur du bureau, ils ont fait des jokes, se sont parlé des affaires qui fonctionnaient, des affaires qui fonctionnaient pas. Des fois, la perception, toujours des gens qui sont mal intentionnés. Est-ce que tu as déjà été victime de ça? Des gens qui ont pris des segments de tes podcasts, puis ont dit « Voici ce que Charles Côté, de drôlement inspirant, a dit, ça n'a pas de bon sens, oui? »
Oh oui, ben ça avait déjà passé dans certaines émissions de radio là, populaires à Montréal, là, des extraits où ça démontrait comme si... Je disais que l'école, c'était pas important, on en a parlé tantôt. Mais c'est comme, non, c'est pas ça le point, c'est pas ça du tout. Reçois-moi pendant une demi-heure pour m'en parler. Mais non, on va prendre les 15 secondes où je fais une joke, puis là, on met ça comme si c'était vrai. Fait que, oh, je l'ai déjà vécu. Mais en même temps, moi, de mon côté, la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas besoin, tu sais, de. Quand même, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose de grave pour que ça vienne me porter un problème, tu sais. Donc, je fais attention à ce que je dis parce que je comprends que les gens. Sont sensibles, mais de l'autre côté, en même temps, ça fait c'est aussi, il ne faut pas, faut pas se freiner de parler, d'avoir peur de ce qu'on va dire. Fait que, tu sais, moi, avant de me connecter là, avec toi, je me dis pas, hey, là, faut que je fasse attention à ce que je vais dire là, pendant l'entretien, là, parce que d'un coup, je dis quelque chose, c'est comme, hey, rendu là, on n'a plus de vie, là, si on est toujours en train de réfléchir à ce qu'on dit pour pas faire de peine à qui que ce soit. C'est juste d'un point de vue général, de pas avoir peur de s'exprimer, mais d'être assez intelligent pour savoir, OK, est où la limite de où est-ce que je peux aller. En comprenant qu'il faut mettre un contexte sur la table, puis il faut apporter un sujet où ce qu'on peut pas juste parler de n'importe quoi comme ça, puis que les gens vont en faire une déduction. La communication, c'est toute une science, là. C'est toute
Ouais.
une science.
Parlons un petit peu de psychologie, si tu le veux bien. J'imagine que c'est des sujets que t'aimes ça, que t'aimes jaser. Quelle est la différence entre un psychologue sportif, un psychologue, puis un gars qui va t'accompagner, exemple coach de vie, dans ton quotidien? C'est quoi? Sépare-moi les jobs. Parce que j'ai parlé avec Bruny Surin. Moi, honnêtement, quand j'entendais psychologue, c'est parce que ça allait pas. Puis Bruny Surin dit non, 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 moi, tout dans ma vie allait super bien, mais j'ai pris un psychologue sportif, puis ce gars-là m'a aidé à performer encore plus. Bruny Surin, c'était tout un athlète. Je me suis dit, mais attends un peu, un psychologue, il me semble que c'est négatif, un psychologue, c'est quand ça va pas bien. Puis le psychologue, il a donné des techniques, des outils de travail dans son métier d'athlète qui ont fait en sorte qu'il a été capable de se surpasser. Dans le cas des psychologues, ben ça, il va te donner des outils pour être capable de passer le moment présent, puis peut-être d'avoir un meilleur futur, puis de penser peut-être différemment, puis de voir où est-ce que tu as fait des erreurs. Un gars ou une fille qui fait du coaching, c'est jusque où vous êtes, que vous pouvez aller sans que ça touche nécessairement la psychologie, là, t'sais, l'ordre des psychologues ou des psychologues sportifs, là.
Ben, la ligne est mince, hein? Puis c'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de questionnements alentour du coaching de vie parce que c'est pas réglementé et n'importe qui peut le faire demain matin. Donc, moi, ce que j'aime rappeler aux gens qui sont dans le coaching, c'est qu'on peut pas poser de diagnostic. Fait qu'on peut pas non plus dire à quelqu'un, ah, ben là, médication, pas une médication, c'est bien, c'est pas bien, ou ah, toi, je pense que t'as ci ou t'as ça comme enjeu. On peut pas poser de diagnostic. Ça va être la job plus d'un psychiatre ou d'un psychologue, justement. Moi, ce que je remarque, dans ce que je fais, c'est que la majorité des clients qui viennent nous voir sont des gens que, généralement, ils ont déjà vu des thérapeutes ou des psychologues, et ça les a aidés à comprendre c'est quoi qu'il y avait, de où ça venait, puis tout ça. Ben après ça, c'est qu'il leur manquait un plan de match clair par rapport à un plan d'action, comme si le psychologue n'était pas nécessairement en mesure de pouvoir dire « Hey, je te suggère de faire ça ». Il peut pas t'amener nécessairement vers un chemin ou pousser vers quelque chose. C'est comme, il t'amène à faire des prises de conscience, puis après ça, toi, ben, faut que tu te débrouilles avec ça. Donc, ça peut être différent d'une personne à l'autre, là. Mais moi, de mon côté, c'est un peu comme ça que je l'ai vu avec plusieurs de mes clients. Fait que je peux pas parler pour psychologue sportif puis psychologue tout court dans la vie de tous les jours, les gens qui vont consulter. J'ai pas les deux pieds dans leur bureau, là. Mais ce que je sais, c'est qu'ils font une bonne job. Pas une bonne job parce que les gens viennent nous voir puis ils ont déjà cheminé. Ils ont déjà avancé, mais il manque quelque chose. Puis souvent, ben, c'est le petit plus qui manque, ça va être des choses où ce que nous autres, on va pouvoir aller établir un plan de match et un suivi avec eux pour être sûr de bien les suivre là-dedans. Puis également, ben, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir parce que, ben, justement, ils n'ont pas envie d'aller nécessairement s'asseoir dans un bureau avec un thérapeute, un psychologue. Puis je vais te donner l'exemple, mettons, d'un client, genre. Un gars dans la construction, que là, lui, il n'a jamais vraiment fait de croissance personnelle, mais là, il accroche à mon message parce qu'il dit que ce gars-là, il parle comme j'aime me faire parler, puis il n'a pas envie de se faire flatter dans le sens du poil, puis il a envie d'avoir un plan de match clair, puis comment mieux parler à ses collègues, avec sa femme, comment bien rétablir leur relation, puis d'autres, on a les stratégies pour pouvoir l'aider là-dedans, là. Donc, on n'a pas besoin de s'asseoir avec lui puis de parler du passé pendant 3 4 semaines. On part de ce qu'on est aujourd'hui, puis on est capable de faire un bon fil conducteur, mais c'est tout qu'un travail, l'accompagnement. Donc, il y a beaucoup de questions à poser, il y a beaucoup de choses à aller valider. Puis nous, ben, c'est pas juste on te rencontre 15 minutes, puis après ça, on te fait un plan de match sur on pense que tu devrais ci, puis tu devrais ça. C'est comme non, non, non. Il y a tellement d'affaires à aller voir. La psychologie, c'est complexe. L'humain, c'est complexe. Chaque personne est unique, chaque personne est différente. Donc, il y a des petits détails sur chaque personne. Donc, il y a des grandes lignes dans le coaching, qu'on sait, OK, tel type de personne, il y a peut-être telle affaire pour aller travailler, mais parce qu'elle a vécu ça ou parce qu'elle a tendance à avoir tel genre de réaction ou éviter tel genre de situation, ça, on va plus aller vers là, puis ça, on va moins faire ça. Donc, c'est un jeu d'échecs. Pour moi, je le vois vraiment comme ça, où ce que si j'étais avec quelqu'un, je fais des plus, des moins, des plus, des moins un peu partout, puis je suis capable de voir, OK, à la fin, c'est vers là qu'on va commencer à travailler, puis je sais qu'on va commencer par ça, parce que dans quelques mois pour travailler sur tel élément si ça a été fait, puis tel élément si ça a été fait. Puis c'est tout qu'un travail. Donc, et ça, je pense pas que c'est tout le monde qui le fait comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le coaching parce que ça leur fait du bien à eux d'aider du monde ou d'avoir le sentiment qu'ils aident des gens, mais c'est plus de l'excitation qu'autre chose. C'est comme du positivisme où ce qu'on met des feux d'artifice un peu partout, puis on saute les bras en l'air, puis on est ben, on a l'air d'être bien heureux. Puis après ça, le monde, tu leur dis, t'as appris quoi? Ben rien, mais j'étais heureux. Je me sentais bien. Tes problèmes sont-tu réglés? Non. Fait que, tu sais, moi, je tourne pas l'entour du pot. Il y a un éléphant dans la pièce. Ben, faut qu'on le pointe, faut qu'on règle le problème. Fait que quand les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils sont prêts à avancer quelque chose de point de vue sérieux, parce que moi, je suis sérieux à aider le monde.
Charles Côté de Drôlement Inspirant, as-tu déjà rencontré M. Chaput, Jean-Marc Chaput, qui est un des premiers conférenciers qu'on a
jamais, malheureusement.
Québec? J'ai eu l'occasion de l'avoir quelques fois en entrevue, puis je posais, écoute, une multitude de questions, comme je te pose à toi. C'est un gars que j'ai adoré dès le départ. Moi, je regardais ses conférences, puis je trouvais ça formidable, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait apporter aux gens. Puis le gars était brandé un peu comme toi, c'est-à-dire c'était lui son entreprise. C'était Jean-Marc Chaput. Il a connu énormément de difficultés au niveau de ses entreprises et tout ça. C'est quelqu'un qui avait connu du succès en entreprise. Puis du jour au lendemain, ça s'est terminé. Puis là, il était chez eux. Il était quasiment sur le bord de la faillite. Et sa femme, il a dit, ben Jean-Marc... Serre-toi de ta tête, sacrifice. Fait que là, il a commencé à se servir de sa tête, puis il est redevenu multimillionnaire en faisant des conférences, puis en étant hyper inspirant. Puis j'avais dit, Monsieur Chaput, ça dure combien de temps? T'sais, l'effet Chaput, quand on va voir une conférence de Jean-Marc Chaput, ça dure à peu près combien de temps? Ben, il dit, il y a deux réponses à ça. Il y en a qui vont appliquer les choses que je mentionne, puis ça va leur rester toute leur vie. Il y en a d'autres que ça peut durer... 2 semaines, 3 semaines, mais ils vont devoir peut-être revenir me revoir dans un an pour avoir encore un bon gros 2 semaines, 3 semaines. Mais quand on investit de l'argent, parce que je pense que les gens qui allaient voir Jean-Marc Chaput investissaient de l'argent pour eux, tu sais, pour peut-être améliorer ouais. quelques facettes de leur vie, puis être divertis aussi parce que Chaput était très divertissant. Quand on investit de l'argent, vaut mieux essayer d'intégrer ça, tu sais, les petits trucs que le conférencier pouvait te donner. J'ai l'impression que ça peut peut-être plus fonctionner. Oui, la conférence, je trouve ça intéressant, mais le coaching one-on-one avec des rappels réguliers, tu sais, quelqu'un qui t'appelle une fois par semaine en disant « Hey, t'as-tu appliqué ce qu'on s'est dit? OK, puis quel impact que ça a été? » Des petits ajustements constamment. Je pense que c'est plus pertinent que de voir une seule conférence où des fois, tu perds le fil parce que, bon, ta blonde te parle ou tout ça. Je trouve ça intéressant, l'accompagnement one-on-one.
Définitivement, ça fait une grande différence parce que justement, la personne qui... se dirait, ben moi, après 2-3 semaines, je me sens démotivé après avoir entendu un beau discours, ben c'est ça qu'on va aller travailler. C'est ce point-là qu'on va travailler.
Ouais.
C'est parce que le but, c'est pas de juste être dépendant de quelqu'un puis d'aller voir, puis d'écouter des discours pour être motivé pendant 2-3 semaines. C'est d'avoir une motivation intrinsèque qui est assez forte où tu sais ce que tu vises. Et l'enjeu que je vois le plus, c'est qu'on est perdu. On sait pas quoi viser. On ne sait pas par où commencer. Il ne faut pas se sentir mal puis se taper sur la tête puis être dans la culpabilité pour ça. Il faut juste se dire, hey, c'est ça mon objectif en ce moment, c'est de gagner en clarté puis de savoir c'est quoi que je dois viser parce que tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas c'est quoi que tu dois viser précisément parce que moi, je le vois là, quand il y a des gens qui viennent nous voir puis que là, on commence à poser des questions puis on décortique ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent puis leur idée de comment ils peuvent le faire. Des fois, le premier pas, il est quand même bien ajusté sur... Mais là, il y a des peurs, il y a des craintes, là, il y a plein d'affaires, puis le découragement potentiel qui peut arriver, bien, en sachant, puis en connaissant bien la personne, puis en la coachant de manière adéquate, on est capable, après ça, de mettre des outils, des stratégies en place qui font en sorte que si la personne a tendance à se décourager, bien, on a des stratégies pour ça. On a quelque chose qui fait en sorte que la personne, elle change, est capable de persister, puis d'avoir une constance qui se tient plus longtemps... parce qu'on a un accompagnement qui est justement d'une plus grande durée, puis on n'est pas juste dans de la motivation de « fais-le parce que tu vas mieux te sentir, patati patata ». Le but n'est pas de viser le bien-être, puis juste d'être heureux, puis d'être dans le bonheur à tout prix, parce qu'il y a un paquet d'évitements là-dedans,
ben oui.
Il y a un paquet d'affaires que tu peux faire qui fait juste que tu t'étourdis à travers ça. Donc moi, la majorité des choses que je vois avec nos clients, ce n'est pas des choses qui sont nécessairement agréables, mais demande-leur après ça s'ils sont contents. C'est des témoignages après témoignages de gens qui font comme « ça a vraiment eu un impact dans ma vie. J'ai été coaché pendant 3 mois, puis ça fait 2 ans, puis je vois encore les effets que ça a de ça. Est-ce que ma vie est parfaite depuis? » Ben c'est sûr que non, j'ai encore d'autres choses à travailler parce que, tout comme Charles, j'ai des défauts, puis il faut que je travaille des choses sur moi. Mais Le gros enjeu de pourquoi j'étais venu le voir ou la petite affaire que je voulais régler, ça c'est réglé puis on a réussi à progresser là-dedans. Fait que c'est ça qui est le plus important, c'est de savoir qu'on va vraiment être aidé d'une manière qui est adéquate puis qui est personnalisée, qui va faire en sorte que ben on va vraiment cheminer. Fait qu'on va avoir progressé vers quelque chose. C'est vraiment, c'est le mot pour moi le plus important, c'est la progression. On vise pas la perfection, mais on vise la progression. Sens-tu te progresser aujourd'hui? Sa réponse est oui, t'as gagné.
Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est des zombies heureux, puis c'est des zombies malheureux. Mais quand on pense aux zombies malheureux, mettons, sans faire d'études scientifiques, là, il y en a combien qui vont choisir de se mettre en mouvement alors que ces gens-là souffrent? Tu sais, pour avoir animé des lignes ouvertes pendant des années à Québec, Charles, il y a des gens qui m'appelaient, puis ils me confiaient des affaires. Puis des fois, ils m'appelaient un an plus tard, puis c'était toujours pas réglé. C'était toujours pas réglé. Puis moi, je les appelle les zombies malheureux. C'est des gens qui vivent de 8 à 5. Puis après ça, ils arrivent chez eux, sont seuls, ils font leur petit repas, la petite vaisselle. Après ça, ils s'assoient devant la télé, tout ça. Si c'est votre vie, ça, puis vous êtes heureux, c'est parfait. Mais si vous êtes malheureux, puis vous prenez à peine d'appeler dans une ligne ouverte pour dire, tu sais, Yann, moi, j'aimerais ça, rencontrer un gars, tu sais. C'est le cas d'une dame qui m'avait appelé, une cinquantaine d'années. J'aimerais ça, rencontrer un gars. Ça fait plusieurs années que je suis célibataire. Je dis, ouais, mais tu fais quoi pour rencontrer ce gars-là, tu sais? Tu regardes-tu les gens à l'épicerie? Tu leur parles-tu à ces gens-là? Tu vas-tu manger au restaurant? Tu t'assois-tu au bar? À job, là, tu jases-tu avec tes collègues? T'as-tu des amis de filles qui ont des beaux-frères qui sont célibataires? Est-ce que tu te mets en mouvement? Puis elle me dit non, faudrait bien que je commence. Ça, c'était une zombie qui était malheureuse. Qui était malheureuse puis qui remettait toujours au lendemain, tu sais. Constamment. C'est quoi le pourcentage des gens qui vont passer toute leur vie à être malheureux sans investir en eux pour qu'à un moment donné, la lumière arrive et recommence à vivre comme on devrait vivre en tant qu'humain? Mmh.
J'ai pas de pourcentage à donner parce que j'ai pas encore vu d'études là-dessus, mais sûrement qu'il y en a.
Il n'y a pas d'études sur les zombies, Jean.
Pas sur les zombies, mais sur les gens qui disent être malheureux et qui ne prennent pas action, sûrement qu'il doit avoir une étude à quelque part de ça. Mais moi, ce que j'aime comme analogie, c'est, puis je l'ai compté déjà dans mon podcast parce que le son j'ai entendu, mais le chien assis sur un clou. Généralement, on bouge pas parce que on n'est pas encore assez inconfortable. Fait que l'histoire du chien assis sur un clou, c'est, ben, il y a un chien qui est assis sur un clou, puis il chigne. Il chigne, il chiale, puis tu vois qu'il a pas l'air bien. Et le voisin, il retombe dans la cour, puis il fait, comment ça, ton chien, il braille comme ça? Puis tu réponds, mais parce qu'il est assis sur un clou. Ben, mais il est bien épais, ton chien, pourquoi il se lève pas? Puis ça va s'asseoir ailleurs. Ben, il dit, il a assez mal pour chigner, mais il a pas assez mal pour se lever, puis aller s'asseoir ailleurs. Fait que la majorité des gens qui ne bougent pas, puis sont inconfortables, sont comme un chien assis sur un clou. Ils ont assez mal pour chialer, mais pas assez pour se lever, puis aller ailleurs. Donc, généralement, les gens qui ont vécu des grandes souffrances, des choses vraiment, vraiment, vraiment pas le fun, puis qu'ils s'en sont bien sortis, c'est que la souffrance était tellement là qu'à un moment donné, ils ont fait « OK, c'est assez, il faut que je bouge, je n'ai pas le choix. » Puis j'en raconte plein d'histoires que moi, j'ai vécues, puis des clients que j'ai accompagnés ont vécu, de choses que tu fais « Hey, c'était un moment dans ma vie où ce que il y avait deux options, là. » C'était prendre la ligne droite ou la ligne gauche, puis il fallait choisir le chemin qui fait le plus de sens pour moi. Et généralement, le chemin qui fait le plus de sens n'est pas le plus confortable sur le court terme, mais à long terme, je vais avoir de la fierté. Et là, ben, tu te rends compte que ces gens-là sont rendus à quelque part de vraiment beau. Mais ça, là, tu peux décider ça aujourd'hui. Mais si tu rentres chez vous, après la job, puis une mauvaise journée, mais c'est pas si pire que ça. Tu sais, je trouve qu'au Québec, on est dans une mentalité de pas pire. Hey, fais-tu beau en ce moment? Pas pire. La température, pas pire. Puis à la job, pas pire. Puis dans ton couple, pas pire. Pas pire. Deux astines mots assez négatifs. Pas et pire. Pas pire. On est comme ça. C'est comme pas pire. Fait que si ta situation est pas pire, ben tu fais rien pour la changer parce que c'est pas si pire que ça. T'sais. Mais fait que moi, je me remets en question sur ces situations-là qui me dérangent dans ma vie. Je m'écris noir sur blanc ou bleu sur blanc. C'est quoi qui me dérange en ce moment et que j'ai envie de changer? Puis c'est quoi la première étape là devant moi que je peux faire pour le régler? Fait que c'est effectivement un bon point que tu m'as nommé d'une femme qui veut rencontrer l'amour où ce que ouais, ben faudrait bien que je fasse de quoi? Tu fais, faudrait bien, t'attends à quoi? Que l'homme, le prince charmant vient cogner chez vous, puis il fait comme, ah, oh, ben, regardons ça, une belle madame, l'entraînement de Doritos, là, devant une émission, là, à Potin, là, puis qui fait rien de sa vie, puis qui se lamente. Moi, j'ai vraiment envie de ça. Hey, t'es supposé être une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu peux pas être là, célibataire, en disant, ah, oh, ben, j'espère que moi, trouver le bon gars. C'est quoi ta valeur ajoutée que tu amènes sur le marché? C'est quoi que tu vas amener à cette personne-là? Mais même chose pour moi en tant que conjoint. C'est quoi que j'amène comme valeur ajoutée à ma conjointe pour qu'elle décide de rester avec moi? Faut que j'amène quelque chose. Faut que je travaille quelque chose là-dessus. C'est ça pour toutes les sphères de vie. On travaille en tant que parent, en tant que conjoint, c'est pareil pour tout.
Mais je veux juste revenir sur le fait que les gens ne souffrent pas assez pour changer. Tu sais, combien de fois j'ai entendu des psychologues ou des gens qui sont dans des services d'aide pour les toxicomanes ou encore les alcooliques. Tu sais, je leur demande tout le temps, tu sais, quand on a quelqu'un à côté de nous qui a un problème de toxicomanie et d'alcoolisme, on l'aide comment? Puis il nous dit, tu vas commencer à l'aider quand lui va être à bout, puis il n'y aura plus d'autre chance que je dois changer, sinon je vais mourir. C'est tout le temps ça. C'est comme si l'humain doit atteindre le fond du baril avant de commencer à vouloir changer, alors qu'on n'est pas obligé de souffrir. On est obligé d'attendre jusqu'à temps qu'on soit rendu à l'extrême pour changer, tu sais. Mais l'humain est comme ça. C'est particulier. Écoute, Charles, on va faire une courte pause. Je rappelle aux auditeurs qu'on est avec Charles Côté de Drôlement Inspirant, un gars que vous pouvez voir. Écoute, il y a Facebook, il y a YouTube aussi. Tu es sur Spotify. Tu as une multitude de capsules gratuites sur Spotify. Faut de temps en temps, quand je m'entraîne, j'écoute ça, moi, puis j'adore ça. Tu en as quoi? Plus d'une centaine, hein?
On est rendu à 180, là, c'est complètement gratuit, là. C'est une centaine d'heures d'écoute gratuite.
180, donc il y a du matériel là. On va faire une courte pause, puis on vient avec Charles dans le... Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. Mon invité ce soir, c'est un gars qui est inspirant. C'est le nom de son entreprise, Drôlement Inspirant. Son prénom et son nom de famille, c'est Charles Côté. Je suis très content de te rencontrer ce soir. Je m'attendais pas à quelqu'un de différent. Tu es souvent dans ma tête parce que j'écoute tes capsules. Puis là, ben, j'ai la chance de te jaser one-on-one. Puis t'es pas différent du gars que j'écoute sur Spotify. C'est belle fun, puis t'as de l'air d'un bon humain. Tu fais des conférences une fois de temps en temps. Tu m'as parlé au début de l'entrevue que t'allais dans les écoles. J'imagine que tu fais des conférences aussi pour les gens qui sont peut-être un peu plus âgés. De quoi tu jases dans ces conférences-là pour les enfants? Commençons par les enfants.
Ah ben pour les écoles, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais eu beaucoup de demandes là, quelques années parce que j'étais très impliqué sur la plateforme TikTok, puis on sait bien que TikTok était populaire chez les jeunes. Donc j'avais dit je fais des conférences dans les écoles. Et là, ben, les commissions scolaires, les écoles ont commencé à m'appeler parce que les jeunes allaient voir les directeurs et directrices d'école, leur demander « Hey, on veut Drôlement Inspirant en conférence dans l'école. » Fait que j'ai fait une bonne tournée là, à travers le Québec, aller dans plusieurs écoles. Puis là, j'en fais beaucoup moins dû à ma charge de travail que j'ai actuellement. Mais je m'adaptais évidemment à l'auditoire. Donc, je parle pas de la même chose dans une école secondaire qu'à la chambre des notaires, que des comptables agréés qui m'embauchent pour aller parler à leur cabinet ou des courtiers immobiliers. Donc, bref, je m'adapte vraiment à l'entreprise ou à slash l'auditoire qui va être devant moi. Mais c'est sûr que ça tourne toujours autour de la croissance personnelle puis la prise d'action. Dans les écoles, c'était souvent en terme avec leur donner de l'inspiration, leur donner le goût à la vie parce que on est dans une période où ce que je trouve qu'on méprise un peu les jeunes, on valorise pas que le futur va être beau, les taux d'intérêt sont hauts, la politique va pas bien, la construction, le ci, le ça. On nous met beaucoup de l'avant que tout va mal, puis moi je trouve pas ça inspirant pour un jeune. Puis que de se dire, ben moi, il faut que je trouve que je vais faire plus tard dans la vie. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Là, ce que j'ai le goût de faire à soir, c'est aller au skate park ou jouer à PlayStation. Tu sais, fait que c'est comme. C'est démotivant. Fait que moi, c'était un peu ça. C'était de leur amener un peu d'espoir et d'inspiration que, non, il y a quelque chose de beau qui peut être dans l'avenir. Si toi, tu décides de faire quelque chose de beau, c'est pas obligé d'être juste l'environnement dans le monde dans lequel tu vis. Est-ce que ça se passe bien ou pas bien? Je veux dire, dans des périodes qui étaient pas le fun, il y a des gens qui ont vécu des choses le fun et vice-versa. Donc, c'est plus toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie qui va déterminer beaucoup plus que ce qu'on dit à travers les médias ou ce qu'on essaie de prôner pour nous faire peur.
Vous êtes à peu près une quinzaine dans l'entreprise Drôlement Inspirant. C'est quoi vos thématiques que vous abordez avec vos clients? C'est qui les... Ben, de un, qui est votre clientèle? Y a-tu une clientèle type ou c'est monsieur et madame tout le monde? C'est quoi l'âge des gens en général qui font affaire avec l'entreprise Drôlement Inspirant?
Ça va de 17 à 65 ans environ, la moyenne des gens qui viennent nous voir. Quand on prend les gens en coaching, évidemment, ça prend un minimum de 18 ans. Et on a de toutes sortes de gens. Là. On peut avoir des entrepreneurs qui sont déjà multimillionnaires, qui ont besoin de travailler leur leadership, leur communication avec leur équipe, la négociation. On a des femmes, mères monoparentales qui sont en pleine séparation puis ont besoin d'avoir une meilleure gestion émotionnelle par rapport à leur divorce, à ce qu'elles expérimentent en ce moment. Des gens qui viennent des défis personnels, l'anxiété, le stress, communication, meilleure confiance en soi. On traite tellement, tellement, tellement de sujets. C'est pour ça qu'on est une équipe. Fait qu'on n'amène pas des thèmes, genre voici trois trucs pour aider trois affaires, mais plus, OK, on va se poser des questions, on va voir c'est quoi présentement qui accroche, puis on va mettre une stratégie claire par rapport à la gestion de ton anxiété en ce moment ou par rapport à avoir un meilleur leadership au sein de ton entreprise ou avec tes collègues de travail. Donc, c'est vraiment cette façon-là qu'on l'amène.
Puis, est-ce que ton entreprise est toujours en croissance? Est-ce que tu vas grossir avec plus de coachs? Est-ce que tu as l'intention peut-être de découvrir le marché anglophone? Je ne sais pas si tu le fais déjà dans le secteur de Montréal, mais as-tu l'intention des fois d'aller peut-être vers l'Ouest canadien?
C'est drôle, tu me dis ça parce que là, quelques années, j'avais pris des cours d'anglais, puis les gens se disaient, OK, Charles prend des cours d'anglais, il veut switcher en mode anglophone. Puis là, moi, je répondais, non, je vais apprendre l'anglais juste pour être capable de commander au restaurant à Montréal. Donc, côté anglophone, j'ai vraiment pas cette ambition-là pour l'instant. Par contre, la francophonie, c'est gros, là. Le Québec, on est 8 millions, mais en Europe, il y en a combien de francophones? Il y a une méchante gang. Donc, j'ai déjà des clients en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, puis en France. J'ai pas encore établi des grandes parts de marché là-bas, mais c'est le prochain step. Au Québec, notre nom est assez bien implanté, les gens nous connaissent, mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de gens à aider parce que si je fais le calcul qu'on est 8 millions de Québécois et qu'au courant des dernières années, on a eu 3000 clients en coaching et en formation, il en reste encore, là. Il y a de la job en masse, il y a de la place. Puis les gens viennent au moment où ils sont prêts. Donc, j'ai des gens qui sont en coaching en ce moment, puis ils me connaissent, ils me suivent depuis 3 ans. Mais là, 3 ans, le timing n'était pas bon. Là, 2 ans non plus, là, 1 an non plus. Et là, aujourd'hui, ça l'est. Donc, nous, on est patients, on ne presse pas les choses. On sait que les gens vont venir à nous lorsqu'ils vont avoir besoin. Puis voilà.
Ouais, puis les technologies font en sorte que tu peux avoir des clients en Europe, puis toi, être à Montréal ou à Québec, puis continuer de suivre ces clients-là sans aucun problème.
Ah oui, puis sinon, ben un billet d'avion, puis on fait un événement là-bas, puis on rencontre des gens là-bas aussi. Là. Ça se fait très, très, très bien aussi. Là. Fait que exact. Si je suis capable de faire Montréal-Québec, Montréal-Québec plusieurs fois dans l'année, ben je peux faire également Montréal-Paris. Ça se fait bien aussi.
Écoute, Charles Côté de Drôlement Inspirant, quand tu seras de passage à Québec pendant le jour, ben tu viendras faire un tour dans le show du midi sur les ondes de Boulevard 102.1. Ça va me faire un plaisir de t'accueillir. Puis on jasera de la vie, puis peut-être des petits trucs que tu pourras nous donner à ce moment-là. Ça a été une belle rencontre avec toi pendant 60 minutes. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur ton entreprise, sur toi, bon, je l'ai dit, sur Spotify, y a-tu d'autres endroits?
Ben le plus simple, c'est sur drôlementinspirant.com, le site web. Sinon, bon, on est sur tous les médias sociaux. Donc, quelqu'un est sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, peu importe, TikTok, on est là. Donc, drôlement inspirant, vous écrivez ça sur Google, vous allez me trouver.
Charles Côté, merci.
Merci à toi, c'est un plaisir.
Nous, on se laisse là-dessus et je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard et on se dit à demain, 11h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci, bye-bye. Marceau le soir.